Comme tout bon locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. La ménopause est une étape inéluctable de la vie d'une femme. Cette période, pendant laquelle l'activité ovarienne s'arrête, où les règles disparaissent définitivement, va durer plus d'un tiers de la vie d'une femme. D'abord précédée d'une phase de périménopause, elle peut être progressive ou chaotique et intervient généralement entre 45 et 55 ans. La ménopause, c'est le résultat d'une véritable obsolescence programmée de l'ovaire et rappelons que ce n'est pas une maladie mais bien un phénomène naturel. Ménopause silencieuse ou trouble, ces changements hormonaux peuvent s'accompagner de symptômes gênants pour 50 à 60% des femmes. Bouffées de chaleur, fatigue, troubles urinaires, troubles sexuels, douleurs ostéo-articulaires, maladies cardiovasculaires ou dépression. Mais chaque parcours de femme est singulier. Et surtout, si certaines de ces manifestations sont possibles, elles ne sont pas systématiques ni irrémédiables. À l'occasion de la Journée mondiale de la ménopause, nous faisons le point sur cet état physiologique féminin. Comment reconnaître les signes de la ménopause? Quelles recommandations pour limiter l'impact de certaines pathologies qui peuvent survenir à cette période? Comment préserver sa santé et trouver un traitement adapté selon les régions du monde? Tour d'horizon avec notre invitée. Journée mondiale de la ménopause, pour en parler avec nous aujourd'hui en duplex de Bordeaux grâce à France Bleu Gironde, Dr Jean-Claude Empereur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue de la reproduction, spécialisé en stérilité et en ménopause au sein de la clinique de Bordeaux Nord et auteur du livre « Choisir sa ménopause, santé et qualité de vie sous protection hormonale » aux éditions Frison Roche. Nous retrouverons tout à l'heure en direct du Cameroun, Dr Monique Onomojong, gynécologue obstétricienne à Douala. Et en fin d'émission, nous ferons le point sur le chlordécone, dangereux pesticide utilisé aux Antilles pour lutter contre un parasite du bananier et suspecté d'être à l'origine de cancer de la prostate. Nous serons donc en ligne avec Serge Letchimy, député de la Martinique et président de la commission d'enquête sur l'utilisation du chlordécone. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, notre page Facebook est ouverte et nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Jean-Claude Empereur, dès le début de votre ouvrage, vous expliquez que la ménopause est devenue un événement de la mi-vie. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Tout à fait. Eh bien, c'est un événement qui survient à un âge donc de la cinquantaine, qui à l'heure actuelle, compte tenu de l'espérance de vie des femmes, qui atteint en tout cas en métropole à peu près 85 ans, est un phénomène finalement qui se situe non plus en fin de vie, mais en milieu de vie. On a gagné à peu près 30 ans d'espérance de vie au cours du siècle dernier. À l'époque... En 1750, par exemple, il y avait à peu près une femme sur dix qui atteignait l'âge de la ménopause. Et actuellement, c'est à peu près huit femmes sur dix, dix fois plus. Donc c'est un phénomène qui est devenu très important.
Et donc actuellement, à quel âge généralement une femme est ménopausée ?
La ménopause se situe autour de 50 ans, donc il y a une fourchette entre 48 et 51 ans en général, mais il y a des ménopauses plus tardives et des ménopauses plus précoces.
Des ménopauses précoces d'ailleurs, plutôt avant 40 ans ?
Oui, la ménopause précoce se définit avant 40 ans. Elle est particulière parce que c'est une des rares périodes de la ménopause qui ne pose pas de questions polémiques par rapport au traitement. Une femme ménopausée tôt doit absolument... prendre un traitement hormonal jusqu'à l'âge normal de la ménopause.
Et docteur Jean-Claude Empereur, rappelons-le, la ménopause n'est pas une maladie, je le disais au début de cette émission, c'est un phénomène naturel. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps d'une femme ?
C'est un phénomène naturel, mais pas tout à fait, ça dépend ce qu'on entend par nature. La nature a prévu... comme à peu près dans toutes les espèces de mammifères, que la vie se terminait quelque temps après la fin de la vie reproductrice. Et effectivement, beaucoup de femmes, il y a quelques siècles, décédaient assez tôt après l'arrêt de leur fonction ovarienne. Actuellement, ce n'est pas la nature, c'est la science et la médecine qui ont permis cet allongement du durée de vie et qui a créé de manière tout à fait artificielle par rapport à la nature une période de vie qui n'existait pas. Donc c'est un phénomène à la fois naturel naturel et qui ne l'est pas tout à fait.
Et donc, ce qui signifie l'arrêt de la sécrétion hormonale, œstrogène et progestérone, c'est ça ?
Voilà, en fait, la ménopause elle-même est uniquement constituée de l'arrêt de la sécrétion ovarienne, c'est-à-dire essentiellement de l'estradiol, qui jusque-là baignait le corps féminin depuis l'âge de la puberté.
Est-ce que la ménopause, finalement, est donc synonyme d'arrêt de la fertilité ?
Bien sûr, dans la mesure où cet arrêt de fonction ovarienne est lié au fait qu'il n'y a plus d'œuf au niveau des ovaires, il y a une stérilité définitive.
Docteur Jean-Claude Emporer, comment savoir qu'une femme est ménopausée ?
La ménopause se définit comme l'arrêt des règles depuis un an. Alors certaines ménopauses se font brutalement, d'un mois sur l'autre. D'autres ménopauses sont précédées de perturbations du cycle, d'allongement des cycles. Mais la ménopause elle-même, on considère qu'elle est vraiment faite un an après les dernières règles.
Et la ménopause, à proprement parler, est précédée d'une période de dérèglement du cycle ovarien, avant qu'il ne s'interrompe vraiment. C'est ce qu'on appelle la préménopause ou la périménopause.
Oui et non, c'est-à-dire que certaines ménopauses s'installent brutalement d'un mois sur l'autre, d'autres sont précédées par des perturbations du cycle, mais la préménopause, qui est la période qui précède immédiatement la ménopause, n'est pas forcément illustrée par des troubles du cycle. On peut avoir une préménopause avec des cycles normaux.
Mais est-ce qu'il y a quand même des signes avant-coureurs de la ménopause ?
Certainement, oui. La préménopause est caractérisée, non pas par un manque d'hormones femelles, d'estradiol, mais par un manque d'hormones de progestérone. La progestérone est cette hormone qui est sécrétée après l'ovulation jusqu'aux règles, donc dans la deuxième partie du cycle. Et ce taux de progestérone diminue du fait de la qualité des ovulations qui diminue également. Et cette progestérone ne compense plus tout à fait l'effet de l'estradiol. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre qui peut entraîner des troubles fonctionnels comme des troubles de l'humeur, un syndrome prémenstruel,
une alternance de cycles aussi, de règles, cycle court et cycle long.
Aussi, oui, il peut y avoir des perturbations du cycle en plus, oui.
Et alors, quand est-ce qu'il faut consulter un médecin et surtout, comment faire quand on n'a pas accès à un gynécologue ?
Quand on n'a pas accès à un gynécologue, bon, il y a des médecins généralistes qui manient très bien ces traitements et ces techniques. Consulter, si on n'a absolument aucun trouble, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pas forcément. C'est toujours bien quand même de faire un bilan pour savoir s'il n'existe pas de susceptibilité à certaines pathologies créées par la ménopause. Je pense particulièrement aux problèmes d'ostéoporose, des problèmes osseux, puisque la ménopause est suivie d'une perte de la masse osseuse assez rapide. Et donc, il est important de savoir avec quelle masse osseuse on arrive à la ménopause. Lorsque cette masse osseuse diminue trop, c'est là qu'on voit donc l'arrivée de fractures faciles au niveau de la hanche, au niveau des vertèbres. Et il est important de savoir au moment de la ménopause si sa masse osseuse est de bonne qualité ou s'il faut s'attendre à des problèmes.
Vous l'avez dit, il existe plusieurs types de ménopause. C'est souvent, la plupart du temps, une période qui s'accompagne de troubles dits climatériques. Alors, docteur Jean-Claude Emporer, quels sont ces symptômes ? C'est d'ailleurs ce que vous appelez la phase visible.
Voilà, la phase visible de la ménopause s'accompagne chez un peu plus de la moitié des femmes de symptômes typiques. Bon, bien sûr, les fameuses bouffées de chaleur qui peuvent avoir tous les types. C'est des bouffées de chaleur qui durent quelques semaines, d'autres qui au contraire sont très envahissantes et peuvent durer des dizaines d'années. Donc à ce niveau-là, chaque personne a sa ménopause. Il n'y a pas deux femmes qui font la même ménopause.
On parle aussi de manifestations génito-urinaires ou de manifestations fonctionnelles. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, les manifestations génito-urinaires sont liées, elles aussi, à la disparition de l'estradiol. Cette hormone nourrit les muqueuses vaginales, vulvaires, etc. Et par conséquent, la ménopause s'accompagne généralement d'un assèchement de ces muqueuses qui entraîne des difficultés pour les rapports, des brûlures, des rapports difficiles et douloureux, et parfois également des problèmes urinaires, puisque la vessie elle-même est sensible à l'estradiol.
La ménopause est aussi souvent synonyme de coups de fatigue, de dépression, d'angoisse.
Oui et non, c'est-à-dire que le coup de fatigue, oui, il peut y avoir aussi des douleurs ostéo-articulaires, mais les phénomènes de type angoisse, dépression ne sont pas liés vraiment à la disparition de l'estradiol, c'est lié plutôt à des phénomènes symboliques, psychologiques, de l'ordre de la disparition de la fertilité, de la disparition de la féminité, de la crainte de la perte d'attractivité pour l'autre sexe, etc. Donc ces phénomènes peut-être plutôt psychologiques qu'hormonaux.
Docteur Jean-Claude Empereur, est-ce qu'il y a des femmes qui traversent cette période sans subir de symptômes ?
Absolument. Il y en a un bon tiers et même peut-être un petit peu plus. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont absolument aucune symptomatologie, qui ont une bonne masse osseuse, qui ont une vie saine et qui ne nécessitent absolument aucun traitement.
En fait, vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, il n'existe pas deux femmes qui traversent la période de la ménopause de la même manière. Il n'y a pas vraiment d'égalité entre les femmes face à la ménopause.
Absolument. Et la façon dont cette ménopause va survenir et se dérouler n'a strictement non plus aucun rapport avec la vie antérieure, le nombre de grossesses, etc. La seule chose que l'on peut noter, c'est que chez les femmes qui fument, la ménopause intervient plus tôt en général parce que le tabac diminue le stock d'œufs au niveau des ovaires.
Tout de suite, je vous propose de donner la parole aux éditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et tout de suite, on retrouve Mireille qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Mireille.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour Raphaël, bonjour docteur. Alors en fait, j'avais deux questions, mais la première a été déjà répondue par le docteur. Donc je voulais savoir au bout de combien de temps d'absence de règles on pouvait se considérer comme ménopausée. Donc j'ai bien entendu que c'était un an. Ma deuxième question était donc quel traitement le plus naturel possible je pourrais prendre pour calmer mon irritabilité, sachant que j'habite en Côte d'Ivoire, que je n'ai pas accès à tous les médicaments un peu paramédicaux, on va dire, et sachant que j'ai fait une phlébite.
Et juste une question d'abord, Mireille, est-ce que vous avez déjà consulté un médecin ou un gynécologue ?
Alors j'ai consulté un gynécologue il y a quelques années parce que je commençais à avoir un dérèglement cyclique. Donc il m'a fait faire une prise de sang, il m'a annoncé que j'étais en préménopause et que ça pouvait durer une dizaine d'années. Et j'ai revu un gynécologue cet été pour complètement autre chose. Et il m'a dit qu'il fallait attendre effectivement quelques temps, mais de faire une prise de sang en décembre parce que j'ai une absence de règles depuis mars.
Docteur Jean-Claude Empereur, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Mireille ?
Eh bien Mireille, effectivement, si le problème d'irritabilité est tout à fait isolé, il n'est pas certain qu'il soit d'origine hormonale. Auquel cas, ce sont les traitements habituels de ce type de situation. C'est toujours difficile à dire si un symptôme isolé comme ça est lié à la ménopause ou s'il n'a pas de rapport. Et la seule façon de le savoir, c'est de faire un traitement hormonal d'essai pendant 2-3 mois qui nous dit tout à fait rapidement si ce symptôme disparaît à l'occasion de son traitement hormonal, on peut conclure qu'il est lié, ou s'il ne disparaît pas. Donc il est tout à fait possible de faire un traitement court pour être fixé. Mais en dehors du traitement hormonal lui-même, il n'existe pas de traitement vraiment efficace contre les manifestations de la ménopause. Il y a beaucoup de traitements dits naturels, en particulier les phytoestrogènes, le soja, etc. Et là, il y a une grosse polémique, puisque est-ce que c'est naturel de prendre du soja ? Le soja contient des hormones femelles faibles qui ne sont pas du tout, qui n'existent pas dans le corps de la femme, et donc le soja ou les phytoestrogènes ne sont pas du tout naturels pour l'organisme féminin. Alors que les hormones naturelles, celles qu'elle sécrète elle-même ou qu'elle a sécrétées jusque-là, sont totalement naturelles.
Mireille, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Oui, mais alors du coup, la question de prendre un traitement de 2-3 mois hormonal, qu'est-ce que je peux prendre vu que j'ai fait une phlébite ?
Alors, il faudrait savoir ce type de phlébite. Soit c'est une phlébite qui est secondaire à une immobilisation chirurgicale, enfin un geste médical quelconque, dont certains s'accompagnent de phlébite dans les complications post-opératoires. Soit une phlébite qui est liée à une susceptibilité personnelle au niveau de la coagulation, qui est parfois génétique. Dans ces cas-là, il est parfois possible, Il faut voir ça avec son cardiologue, évidemment. Il est parfois possible d'utiliser quand même l'estradiol, à condition de l'utiliser par voie transcutanée.
Merci beaucoup Mireille pour votre question. Docteur Jean-Claude Empereur, les femmes ménopausées peuvent donc avoir recours à un traitement hormonal. Il en existe plusieurs types. De quoi s'agit-il ?
Le traitement hormonal en lui-même vise à restaurer la situation antérieure, c'est-à-dire celle qui précédait la ménopause et qui était caractérisée par une sécrétion permanente d'hormones femelles, donc de l'estradiol, par l'ovaire. L'ovaire sécrète de l'estradiol tout le long du cycle et en plus, en deuxième partie de cycle seulement, s'additionne la progestérone. Donc la disparition de l'estradiol est compensée par la prise d'estradiol. Mais si on a son utérus, ce qui est le cas de la plupart des personnes, il faut aussi prendre de la progestérone, sinon il peut y avoir un développement anormal au niveau de la muqueuse utérine et qu'il faut absolument compenser avec la progestérone, comme lors d'un cycle naturel.
Et tout de suite, on retrouve Kadidjatou qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Kadidjatou.
Bonjour Raphaël.
On vous écoute.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Bon, j'ai un problème. Ça fait quelques jours, je suis allée voir mon médecin tout dernièrement. Il m'a demandé de faire un examen pour voir. Après, j'ai envoyé les résultats. Il m'a dit que je suis en préménopause, que j'ai 35. Mais moi, ça fait 2 ans de mariage, j'ai pas encore d'enfant. Et je voulais savoir si c'est possible d'avoir un enfant avec ça. J'ai pris Synergon en août. Je n'ai vu qu'un seul jour. J'ai pris le 6, le 11. J'ai vu mes règles le seul jour. Après, je suis allée le voir. Il m'a prescrit Proginova, 5 mg. J'en avais pris avant. Quand j'ai pris ça la première fois, j'ai vu mes règles 3 mois successifs. Après, j'ai fait 2 mois, j'ai pas vu. Je suis allée le voir, il m'a donné Synergon. Après ça, je suis allée le revoir. Après 1 mois encore de retard, il m'a donné Proginova. C'est ce que j'ai pris les 2 mois. C'est fini ce 12 octobre. Jusqu'à présent, je ne vois rien. Je ne sais pas trop. Je suis inquiète si c'est possible d'avoir un enfant avec ça.
Kadidjatou, si je comprends bien, vous êtes en préménopause et vous avez suivi plusieurs traitements et donc vous voulez savoir si c'est la préménopause qui explique le fait que vous n'ayez pas encore eu d'enfant. Docteur, oui. Docteur Jean-Claude Empereur, qu'est-ce qu'on peut répondre à Kadidjatou?
Ça dépend sur quoi on a fait le diagnostic de préménopause. La ménopause est précédée de perturbations hormonales sans que parfois il y ait des troubles au niveau des symptômes. On fait à ce moment-là, lorsqu'on veut faire le diagnostic, une prise de sang en tout début de cycle, entre le 3e et le 5e jour des règles, et on dose le taux de l'hormone FSH. En préménopause, l'ovaire devient moins sensible à la stimulation par la glande hypophysaire qui stimule l'ovaire par l'hormone FSH. Et comme il devient moins sensible, l'hypophyse essaie de forcer cette réponse ovarienne et le taux de FSH augmente. Donc le fait de trouver un taux de FSH augmenté chez certaines personnes qui ont encore leurs règles peut faire dire que le stock ovarien est en train de diminuer de façon importante et donc effectivement faire poser le problème de préménopause, ce qui peut arriver à n'importe quel âge.
Oui, excusez-moi.
Donc, sur le plan pratique, il faut savoir aussi que l'arrêt des règles n'est pas toujours lié à la ménopause. Il y a des femmes jeunes qui ont un stock ovarien tout à fait normal et qui n'ont pas leurs règles pour d'autres raisons. Donc, les problèmes de cycle ne sont pas toujours liés à une préménopause. Lorsque les règles ne viennent pas, il faut les faire venir en utilisant les deux hormones habituelles, c'est-à-dire de l'estradiol. Dans le cas particulier, cette dame a pris du Proginova, c'est de l'estradiol. Mais il faut aussi prendre une dizaine de jours de progestérone si on veut que les règles arrivent exactement comme lors d'un cycle normal.
Merci beaucoup Kadidjatou pour votre question et on vous souhaite une belle journée à Conakry. On va maintenant passer le micro de Priorité Santé à Koura qui est à Dakar au Sénégal. Bonjour Koura.
Bonjour Raphaël.
On vous écoute.
Alors, oui. Alors, moi, je vous appelle parce que, bon, je suis ménopausée. Pas très ménopausée depuis maintenant 10 ans. J'ai 58 ans maintenant. Et j'ai des bouffées de chaleur, mais alors, depuis 10 ans. Et c'est absolument insupportable. Au départ, j'avais vu mon endocrinologue qui m'avait proposé un traitement hormonal, bon, que je n'avais pas voulu le prendre. Mais maintenant, là, je crois que ça devient une nécessité absolue, parce que c'est vraiment pénible.
Et pourquoi vous ne vouliez pas prendre ce traitement ?
Bon, c'est vrai que j'ai une maman qui était du corps médical, bon, on en avait discuté un peu, elle m'a dit, bon, elle-même était ménopausée, elle m'a dit, oui, mais ne t'inquiète pas, ça va passer. Bon, finalement, non, je crois que ça va être nécessaire, c'est nécessaire.
D'ailleurs. Donc finalement, Koura, vous voulez savoir comment régler ou en tout cas diminuer ces bouffées de chaleur et trouver un traitement hormonal adapté, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait, oui.
Docteur Jean-Claude Emperer, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Koura ?
Eh bien, Koura est un exemple typique de toutes ces femmes qui ont été un peu sacrifiées sur l'autel des statistiques et qui n'a pas pris d'hormones femelles à l'époque parce que, d'une part, elle pensait que ça durerait pas longtemps, ce qui est en fait totalement imprévisible, la preuve, et que d'autre part, le fait de prendre un traitement hormonal augmentait des risques, en particulier au niveau du cancer du sein. Pour répondre à sa question, d'abord, si elle envisage évidemment de prendre un traitement hormonal maintenant, c'est que bon, elle aurait pu le faire évidemment bien avant et s'épargner tous ces troubles. Le problème, c'est que le traitement hormonal doit être pris assez tôt après la ménopause et 10 ans après, ça peut poser un problème, notamment sur le plan cardiovasculaire. Donc, il faudrait qu'elle fasse un bilan cardiovasculaire très précis pour savoir si elle peut prendre ce traitement. En effet, après la ménopause, peu à peu, chez certaines personnes, il se crée des lésions cardiovasculaires de type athérosclérose, comme chez l'homme. Et lorsque on prend un traitement hormonal sur des artères qui sont abîmées, au contraire, il n'y a pas d'effet protecteur sur ce plan-là des estradiols, mais plutôt parfois un effet délétère. Bien sûr, l'estradiol sera parfaitement souverain sur ses bouffées de chaleur, elle sera parfaitement calmée, mais il faut qu'elle vérifie avec un cardiologue qu'il n'existe pas de risque particulier à prendre un traitement hormonal sur le plan cardiovasculaire. Et bien entendu, il faut avoir recours à ce moment-là absolument au traitement de type percutané.
Koura, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Oui, je vous remercie Raphaël.
Merci.
Et je vous remercie docteur. Donc,
bien
j'irai
sûr.
Voir mon endocrinologue.
Merci.
Votre cardiologue.
Mon cardiologue, pardon, excusez-moi. Oui. Très bien.
Bonne journée à Dakar, au Sénégal. Docteur Jean-Claude Emperer, on peut comprendre donc qu'il y a des symptômes qui peuvent durer longtemps après le déclenchement de la ménopause.
Oui, les bouffées de chaleur, quand elles arrivent, personne ne peut dire combien de temps elles vont durer. Donc, il y a très souvent, elles se disparaissent assez vite, mais il y a beaucoup de personnes qui, après 70 ans, conservent des bouffées de chaleur difficiles à supporter. Et donc, au départ, on ne sait absolument pas quelle va être l'évolution de ces bouffées de chaleur.
Et tout de suite, on prend notre dernier auditeur, auditrice, Sika, qui nous appelle de Cotonou, au Bénin. Bonjour, Sika.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Alors, moi, j'ai une préoccupation. J'ai une soeur qui s'est mariée à l'âge de 28 ans. Elle était vierge quand elle s'est mariée. Après son mariage, elle a eu 2 enfants. Mais il s'est fait que déjà à 38 ans, elle n'a plus ses règles. Et elle s'est rendue au soin, je pense qu'elle est déjà ménopausée. Du coup, je voudrais demander, est-ce qu'une virginité prolongée ou bien poussée peut entraîner la ménopause précoce chez une femme ?
Merci pour votre question, Sika. Docteur Jean-Claude Emperer, si on comprend bien, Sika se demande si garder sa virginité longtemps peut favoriser la ménopause, la préménopause.
Absolument pas, ce sont des phénomènes totalement indépendants. Les rapports, l'existence de rapports, leur fréquence, etc. n'a strictement aucune espèce d'influence sur l'âge de la ménopause.
Merci beaucoup Sika pour votre question. Merci à tous pour vos appels et vos messages au standard de Priorité Santé. Vous écoutez donc Priorité Santé sur RFI. Nous parlons aujourd'hui de la ménopause avec vous, docteur Jean-Claude Emperer. Dans votre ouvrage, vous utilisez l'image de l'iceberg, c'est-à-dire une partie émergée, visible, plus ou moins troublée, on en a parlé. Ce sont les symptômes et une partie immergée, qui est en fait la plus importante, où sont susceptibles donc de se développer silencieusement des complications.
C'est exact. Quand on parle de la ménopause, on fait référence en général aux troubles habituels dominés par les bouffées de chaleur. Mais en fait, la ménopause est un phénomène beaucoup plus complet, c'est-à-dire que la disparition de l'estradiol provoque évidemment ces symptômes, mais surtout entraîne une perte de l'effet protecteur que l'estradiol effectuait jusque-là sur un certain nombre de fonctions. D'abord sur la masse osseuse, bien entendu, comme on l'a vu, mais aussi sur le plan cardiovasculaire, puisque après la ménopause et assez rapidement, la plupart des femmes retrouvent le risque cardiovasculaire de l'homme, alors qu'elles étaient jusque-là protégées. Il faut bien se rappeler qu'actuellement, plus de la moitié des femmes décèdent de problèmes cardiovasculaires, surtout que le mode de vie actuel, dans le progrès est très défavorable au profil cardiovasculaire, et puis aussi protège du déclin cognitif, sans parler des problèmes cutanés de peau, etc. Donc tous ces phénomènes protecteurs sont insensibles, on les voit pas, mais ils sont tout à fait prégnants, et en partie également chez les femmes qui ne présentent aucun symptôme habituel. Donc les femmes qui présentent aucun symptôme de ménopause sont également menacées par ces phénomènes dégénératifs.
Pour bien comprendre, en fait, c'est la privation en œstrogène qui est préoccupante parce que justement le retentissement est silencieux.
Oui, parce que les œstrogènes protégeaient l'organisme féminin de tous ces problèmes jusque-là.
Alors les changements hormonaux, donc le vieillissement, peuvent provoquer des pathologies. Qu'en est-il des conséquences de ces pathologies à long terme ?
Sur le plan osseux, bien entendu, c'est l'apparition de fractures à un âge relativement jeune, fracture de la hanche, fracture de la colonne vertébrale, des vertèbres, des tassements. Sur le plan cardiovasculaire, c'est l'apparition de troubles cardiovasculaires du type infarctus, accidents cérébraux, etc. Et sur le plan cognitif, c'est l'accélération de la perte, l'accélération du déclin cognitif chez certaines personnes, allant parfois jusqu'à la démence sénile ou l'Alzheimer.
On parle aussi de problèmes de peau, la peau qui s'assèche par exemple, on perd un peu d'élasticité, prise de poids aussi également.
Oui, alors la peau, évidemment, les femmes sont plus sensibles à ça parce que ça se voit et par conséquent, elles font attention à ce type de problème, contrairement aux autres. En ce qui concerne le poids, non, la ménopause en elle-même n'a aucune action sur le poids. Ça fait ni grossir ni maigrir. C'est souvent, la prise de poids, c'est multifactoriel. Il y a le fait, du retentissement psychologique de cette période de la vie qui est dévalorisée dans un certain nombre de populations et de sociétés et qui entraîne un peu d'anxiété, donc du grignotage, etc. Donc il y a cet aspect-là. Mais la privation d'estradiol elle-même n'entraîne pas de variation de poids.
On a parlé donc des traitements. Et est-ce que certains de ces traitements des symptômes de la ménopause, docteur Jean-Claude Emperer, présentent des risques pour la santé ?
Alors le risque principal, qui a déjà été mis en évidence, c'est le risque d'augmentation du cancer du sein. Ce risque a été mis en évidence en 2002, enfin mis en évidence, il avait été mis en exergue en 2002 par une publication célèbre qui a dit que le traitement hormonal de la ménopause entraînait une augmentation du risque du cancer du sein, ce qui fait que tout le monde a arrêté à la fois de prendre le traitement hormonal et de le prescrire. Il se trouve, après analyse postérieure, que cette analyse est largement biaisée et que l'augmentation du risque de cancer du sein est liée au progestatif que l'on donne avec l'estradiol pour compenser ses effets. L'estradiol lui-même, dans la même étude, n'augmentait pas du tout le risque de cancer du sein. Donc les dames qui n'ont pas d'utérus, par exemple, peuvent être traitées uniquement par l'estradiol et elles n'ont pas d'augmentation du risque de cancer du sein. C'est le progestatif qu'on additionne qui donne ce risque. Et le progestatif, la plupart de ces études qui ont été faites aux États-Unis, est un progestatif particulier qui s'appelle l'acétate de médroxyprogestérone et il a été démontré depuis qu'effectivement ce progestatif augmente le risque de cancer du sein. Si on utilise un progestatif neutre, naturel, comme la progestérone naturelle, ou exceptionnellement aussi un progestatif de synthèse qui s'appelle le Duphaston, ce risque d'augmentation du risque de cancer du sein disparaît au moins pendant 5 ans, comme cela a été mis en évidence. Donc, toutes les études qui disent que le traitement hormonal augmente le risque de cancer du sein ont été faites avec des progestatifs qui augmentent le risque du cancer du sein. Mais si on utilise un progestatif neutre, c'est-à-dire le progestatif naturel, la progestérone que la femme a toujours sécrétée elle-même, il n'y a pas d'augmentation de risque de cancer du sein.
Alors, si on parle de risque, on peut aussi parler de bénéfices de ce traitement hormonal de la ménopause ?
Le bénéfice est bien sûr considérable chez certaines femmes. D'abord, il y a une freination très nette de la dégradation du tissu osseux, une prévention importante sur le plan cardiovasculaire, sur le plan cognitif. Et il est démontré que les femmes qui sont sous traitement font moins de cancer du côlon, font moins de diabète, et que globalement, l'espérance de vie des femmes sous traitement hormonal est supérieure à celle qui ne prennent pas de traitement.
Selon les régions du monde, le recours et l'accès au traitement hormonal diffèrent, bien sûr. Vous restez avec nous, docteur Jean-Claude Empereur. On va prendre la direction tout de suite du Cameroun.
RFI.
Et on retrouve le docteur Monique Onomojong. Bonjour.
Bonjour. Merci de m'avoir sollicité.
Vous êtes gynécologue obstétricienne à Douala. Docteur Monique Onomojong, au Cameroun, quelle est la moyenne d'âge des femmes à la ménopause ?
La moyenne d'âge, elle est à peu près ici comme ailleurs, hein, autour de 52-54 ans. Alors bien sûr, il y a des extrêmes, hein, avec des femmes de moins de 40 ans. Là, c'est une ménopause précoce, ou même de la quarantaine. Et puis des femmes de plus de 55 ans, mais bon, ça reste l'exception.
Est-ce que les femmes sont nombreuses à consulter au moment de la ménopause, à venir vous voir ?
Alors malheureusement non. Ça concerne vraiment une minorité de patientes. La majorité des femmes arrêtent de consulter le gynécologue dès lors qu'elles n'ont plus de désir de grossesse, qu'elles ont eu tous leurs enfants. Et c'est bien dommage. Beaucoup de femmes ont des symptômes qui les gênent parce qu'elles en parlent entre elles, mais elles ne sont pas forcément informées du fait qu'il est possible de les soulager. Donc c'est bien dommage, et c'est très intéressant que vous puissiez faire cette émission sur la ménopause, et qui est très écoutée aussi en Afrique, ce qui permettra aux femmes de savoir qu'après la ménopause, on doit continuer à consulter son gynécologue et qu'il y a des solutions possibles pour traiter les symptômes désagréables de la ménopause.
Et comment vous expliquez ça ? Alors, est-ce que c'est un sujet tabou au Cameroun ?
C'est pas vraiment un sujet tabou. Les femmes en parlent entre elles, beaucoup. Mais bon, c'est une habitude, en fait. Les femmes pensent que le gynécologue est là pour traiter les maladies des femmes jeunes, c'est-à-dire on veut un bébé, on va voir le gynécologue, on a une grossesse, on se fait suivre. Mais la ménopause, c'est pas quelque chose qui est considéré comme une maladie, c'est pas une maladie, mais comme quelque chose qu'on peut traiter. Voilà. Et puis, vous savez que la prévention n'est pas très développée non plus dans nos pays africains. Donc, quand les gens sont, entre guillemets, ont l'impression qu'ils sont en bonne santé, ils ne consultent pas.
Et donc, vous, comment vous les accompagnez dans ce moment important de leur vie ? Quelle prise en charge proposez-vous ?
Donc, en général, je commence par leur donner des conseils hygiéno-diététiques. Avoir une alimentation plus équilibrée et surtout faire de l'exercice régulier, ce qui a été dit précédemment. J'exerce dans la ville de Douala, et à Douala, malheureusement, les gens ne marchent pas. Les trottoirs ne sont pas forcément très faciles à manager. Il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir du tout. Donc les gens sont souvent beaucoup en voiture, soit en taxi,
motorisé,
soit en moto, soit. Et donc les gens ne marchent pas. Donc à la ménopause, c'est carrément catastrophique. Du coup, il y a une prise de poids, il y a une augmentation évidemment des risques cardiovasculaires, etc. Donc je leur conseille déjà d'essayer de faire de l'exercice régulier, même chez elles, ou dans des salles de sport, mais même chez elles, et celles qui peuvent marcher aux alentours de leur domicile, qu'elles le fassent au moins 3 fois par semaine. Et puis aussi avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée, parce qu'on mange beaucoup de féculents ici, il y a beaucoup de sauces, il y a beaucoup de plats en sauce avec de l'huile d'arachide ou de l'huile de palme. Donc c'est une nourriture assez grasse et souvent très salée également.
Et quels sont les traitements hormonaux dont vous disposez au Cameroun ? Est-ce qu'ils sont accessibles à toutes ?
Alors, ils sont vendus en pharmacie, donc ils ont un coût. ils sont pas forcément effectivement accessibles à toutes les bourses, parce que comme je vous dis, c'est quand même encore considéré comme un traitement dit de confort, ce qui fait que les gens ont souvent d'autres priorités en termes de traitement, donc c'est pas des traitements qui sont, je dirais, facilement accessibles. On peut les acheter facilement, mais ils coûtent quand même assez cher. Donc on a toutes les formes de gel d'œstrogène, la progestérone naturelle existe, sous forme du Trogestan ou de Duphaston, ce qui a été dit auparavant. Il y a aussi des traitements locaux, hormonaux, sous forme de crème et d'ovules. Et puis aussi des crèmes qui sont pas du tout hormonales, pour la sécheresse vaginale notamment, chez des femmes qui souhaitent pas prendre de traitements hormonaux. Il y a toute une gamme de traitements à base de gel qui peut être efficace également.
Et quel accompagnement vous proposez au cas de femmes qui ont une ménopause précoce ?
Alors, les femmes qui ont une ménopause précoce, déjà, je pense qu'elles doivent être impérativement, elles, traitées par un traitement hormonal substitutif, au moins jusqu'à l'âge de 50 ans, c'est-à-dire rattraper le temps jusqu'à l'âge normal, enfin physiologique de la ménopause, pour éviter les risques d'ostéoporose, des risques cardiovasculaires, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, et puis aussi pour plus de confort pour la vie sexuelle, pour la vie tout court. Et aussi, ces femmes, il y a aussi le problème des grossesses éventuelles qui peuvent se poser, parce qu'il y a des femmes qui sont très jeunes, parfois moins de 40 ans, qui ont une ménopause précoce. Et chez ces femmes-là, la seule solution qu'on peut leur proposer, c'est une fécondation in vitro avec un don d'ovocytes, mais qui se fait au Cameroun. Donc, c'est une possibilité qui s'offre à elles également.
Et pour conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer en termes de prévention ou d'information pour vivre sereinement sa ménopause ?
Alors d'abord, il faut pas ce que je dirais, c'est qu'il faut pas rester dans son coin avec des interrogations ou des symptômes. Il faut consulter son gynéco ou même son médecin généraliste. Et puis surtout savoir
dire qu'il est possible de soulager en fait.
Oui, que c'est possible de soulager. Il y a des traitements efficaces qui sont disponibles au Cameroun. On peut soulager effectivement ces symptômes. Et puis surtout, les femmes ménopausées peuvent continuer aussi à venir voir leur gynécologue ou leur médecin généraliste pour faire des dépistages type de cancer du col ou de cancer du sein. Très important. Parce que souvent, on ne les voit pas non plus, pour les continuer à faire des frottis, continuer à faire, et puis faire des mammographies, faire des examens des seins, etc. Donc, très important.
Merci beaucoup pour votre intervention, docteur Monique Onomojong, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à Douala, au Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Docteur Jean-Claude Empereur, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu ?
Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit notre confrère de Douala. Pour souligner aussi que le problème des femmes qui ne se font pas suivre après la ménopause n'est pas un problème africain, c'est un problème général en France également. Beaucoup de femmes considèrent que lorsque les règles disparaissent et qu'elles n'ont pas trop d'inconfort, elles ne consultent plus. Or, effectivement, il faut poursuivre la prévention, notamment au niveau du cancer du sein. Il faut faire sa mammographie tous les 2 ans et il faut quand même se faire suivre sur le plan gynécologique tous les 2 ans ou en l'absence de phénomènes particuliers. La prévention ne doit pas s'arrêter avec les règles.
On l'a compris, donc la ménopause est une période gérée et perçue de façon différente selon les origines, le lieu de vie, l'éducation. Est-ce que le regard de la société sur les femmes ménopausées a changé ou est en train de changer ?
Eh bien, paradoxalement, je ne crois pas. Les femmes elles-mêmes ont tendance à considérer que c'est un phénomène naturel et beaucoup subissent une espèce de dégradation qui est subie mais qui est acceptée. Le regard des hommes, etc., n'a pas trop changé là-dessus et on a l'impression que beaucoup de femmes finalement n'osent pas consulter parce que ça n'en vaut pas la peine et que leur existence en tant que femme est terminée. Et ce phénomène, culturellement, je crois, ne change pas beaucoup, du moins dans l'état actuel des choses. Et d'ailleurs, tous les magazines féminins sont essentiellement consacrés aux femmes jeunes, à comment rester jeune, etc. Mais dès que la ménopause arrive, là, il y a une espèce de no man's land qu'il faudrait évidemment combattre.
Et pour conclure, est-ce que vous auriez quelques conseils pour bien vivre sa ménopause ?
Oui, d'abord de ne pas en avoir peur. La ménopause est un phénomène qui doit se produire chez tout le monde, donc il faut l'aborder avec sérénité. Il y a tous les moyens possibles d'améliorer les troubles éventuels. Beaucoup de femmes n'auront pas de troubles particuliers. Il faut qu'elles continuent à se faire suivre quand même. Et en tout cas, toute femme dont les règles s'arrêtent à la cinquantaine doit voir son médecin ou son gynécologue pour faire un bilan, de façon à savoir quel est son état physiologique, de prendre des conseils, de faire éventuellement un bilan avec en particulier une masse osseuse, parce que très souvent ce bilan n'est pas fait, cet examen n'est pas fait alors qu'il est absolument primordial pour savoir avec quelle masse osseuse on aborde la ménopause. Et puis, ma foi, continuer à vivre normalement et continuer à rester femme.
Docteur Jean-Claude Empereur, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes endocrinologue de la reproduction, spécialisé en stérilité et en ménopause au sein de la clinique Bordeaux Nord et auteur du livre « Choisir sa ménopause, santé et qualité de vie sous protection hormonale » aux éditions Frison Roche. Et merci à France Bleu Gironde pour ce duplex à Bordeaux. Et nouveauté à découvrir aujourd'hui, priorité santé sur les réseaux sociaux. C'est une pastille vidéo d'une minute pour s'informer. La santé en 60 secondes à retrouver tous les mois désormais sur les différents réseaux de l'émission, Facebook, Twitter et Instagram. Et précisément aujourd'hui, 60 secondes pour comprendre la ménopause. Quatre ministres sont auditionnés sur la pollution aux Antilles. Les ministres de la Santé, des Outre-mer, de la Recherche et de l'Agriculture sont entendus donc depuis lundi sur l'utilisation du chlordécone, ce pesticide ultra-toxique utilisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993. On retrouve en ligne Serge Letchimy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député de la Martinique et président de la commission d'enquête sur l'utilisation du chlordécone. Alors Serge Letchimy, quelle utilisation du chlordécone aux Antilles?
Ah, c'est une histoire extrêmement dramatique et longue. Les premières autorisations ont été accordées en 1972, après deux autorisations refusées, et dont une, 69, qui démontrait parfaitement que ce produit était toxique et surtout extrêmement persistant dans le sol, avec des conséquences éventuelles sur l'environnement probables. À ce titre-là, donc, l'État savait pertinemment, en donnant une autorisation en 72, que ce produit était très toxique. D'ailleurs, les procédures utilisées, c'était plutôt des procédures dérogatoires d'autorisation provisoire de vente, souvent d'une année, qui durait 4, 5, 6 ans. Et d'autres autorisations étaient données, et qu'entre 72 et 1993, où des dérogations ont été encore accordées et les sols martiniquais et guadeloupéens ont été considérablement pollués, avec comme conséquence, bien sûr, la pollution de l'eau, la pollution des aliments, la pollution du sol pour 700 ans. Donc on a un drame environnemental qui conduit à un drame humain, un drame sanitaire, un drame économique. Et l'État n'a pris une véritable conscience que vers les années, fin des années 90, vers les années 2000, et plus spécifiquement 2008, où le premier plan chlordécone a été mis sur place. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un enjeu considérable, où les responsabilités doivent être établies, c'est la mission de la commission d'enquête, et bien sûr, déclinées à partir de ces responsabilités connues et engagées, de faire des propositions à la hauteur du drame.
Alors ce qu'il faut expliquer peut-être, c'est que ce pesticide était employé pour lutter contre un charançon du bananier. Alors en quoi est-ce qu'on peut parler d'un scandale environnemental et sanitaire particulièrement?
Oui, ce mot scandale est employé par tout le monde, y compris par le président de la République lui-même. Et il parle même de réparation et il parle d'irresponsabilité collective, un aveuglement collectif. Parce que quand vous avez un produit de ce type qui ne disparaît pas par les effets de pluie ou de ruissellement ou d'érosion, ce qui pénètre dans le sol reste dans le sol et ensuite va chercher la nappe phréatique pour atteindre l'eau de mer et l'eau de rivière. Ce qui fait que le lien entre la pollution du sol et les aliments est extrêmement intense et important, notamment sur tout ce qui est planté dans le sol. Toutes les racines, les légumes, quoi. Et paradoxalement, la canne et la banane, qui sont les deux grandes spéculations qui ont utilisé massivement ces produits, ne semblent pas être touchés. Donc vous avez une espèce de situation qui fait que les victimes actuelles sont extrêmement nombreuses, ce sont justement les petits agriculteurs, les pêcheurs. Et en matière sanitaire, c'est l'inoculation, c'est-à-dire la transmission par le corps, et avec une pollution dans le corps humain où on a comme conséquence 92% des Martiniquais, 95% des Guadeloupéens qui ont de la chlordécone, qui ont été imbibés de la chlordécone, qui sont contaminés. Ça ne veut pas dire qu'on décline une maladie systématique, mais on découvre petit à petit, mais au bout de 48 ans, c'est pas au bout de 2 ans, quoi. On décline qu'il y a des liens probables et quelquefois avérés entre cancer de la prostate et chlordécone. Les Martiniques et la Guadeloupe battent le record du monde de cancer de la prostate. Des liens entre les accouchements prématurés et chlordécone, des liens entre les malformations au niveau des enfants et chlordécone, les liens sur les problématiques cognitives au niveau des enfants et la chlordécone. Donc le problème sanitaire est beaucoup plus important qu'on l'imagine, et certainement sur l'environnement, mais avec des conséquences sur la santé humaine considérables. C'est parce que nous avons réussi à établir les responsabilités que nous exigeons qu'on rentre dans un processus qui est celui de la réparation et des indemnisations.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, le chlordécone empoisonne toujours donc les Antilles, vous l'avez dit, et la contamination au chlordécone est même reconnue comme maladie professionnelle.
Alors, ce n'est pas encore le cas. Le combat mené par tout le monde a quand même permis de faire évoluer les choses. Premièrement, de prendre acte de la responsabilité de ceux qui ont importé, qui sont devenus des producteurs, c'est-à-dire les commercialisateurs et certains planteurs. Deuxièmement, la responsabilité de l'État. La chlordécone n'est plus utilisée depuis 1993. Ce que nous vivons, ce sont les conséquences dans l'eau, dans l'alimentation. Bien sûr, entre 1993, même si je considère que c'est extrêmement lent et c'est pas à la hauteur du drame, ça c'est mon point de vue, mais il y a quand même des choses qui nous permettent de consommer propre en Martinique aujourd'hui. Les productions qui sont faites, il y a des circuits de contrôle insuffisant, notamment sur le secteur informel, mais il y a des possibilités de contrôle. La Martinique n'est pas livrée à la chlordécone aujourd'hui. Ce que nous regrettons, c'est que les moyens n'ont pas été mis en place suffisamment tôt. Quand on arrête en 1993 l'usage de la chlordécone, on découvre en 2002 les stocks qui sont là et qui circulent, ce qui est extrêmement grave. Donc l'État n'a pas assumé ses responsabilités. Maintenant, il faut qu'on rentre dans un autre processus, une nouvelle dimension, pour que, sur le plan sanitaire, ceux qui sont fragilisés ou fragilisables par la chlordécone bénéficient d'accompagnement sanitaire gratuit. Je pense aux tests de personnes ciblées, notamment les femmes enceintes, les jeunes couples, les personnes de certain âge liées au cancer de la prostate, que les travailleurs professionnels soient indemnisés correctement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse atteindre tout de suite cet objectif puisque la chlordécone n'était pas inscrite dans le tableau des maladies professionnelles. Donc ça sera fait d'après le gouvernement, mais on est très vigilant parce que les indemnisations liées au travail agricole est très réduit. En gros, c'est 5% de dossiers retenus sur l'ensemble de la France. Et puis, trouver des solutions de rémédiation des sols. C'est pollué, donc il faut dépolluer. Il ne faut pas se bercer dans l'illusion que ce n'est pas possible. Donc, il faut faire les recherches et mettre les moyens de la recherche pour dépolluer les sols. Il faut indemniser et accompagner, les deux mots sont collés, indemniser et accompagner pêcheurs et agriculteurs, parce que les conséquences sont là. Je pense que c'est ce processus qu'il faut absolument imposer parce que la commission d'enquête a pu établir la vérité des responsabilités.
Merci d'avoir répondu à nos questions, Serge Letchimy. Je rappelle que vous êtes député de la Martinique et président de la commission d'enquête sur l'utilisation du chlordécone. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cétous Amaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu à la réalisation. Lundi, vous retrouverez Caroline Paré pour parler alimentation et sport. On vous donne rendez-vous à 9h10, temps universel. Bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.